radiocultura.com.
Donc tout ça imprime, révèle évidemment des formes de société qui sont très différentes. Et que ce qui s'est passé dans nos sociétés occidentales individualisées, c'est la façon dont finalement nous sommes partis d'une famille, je dirais, principalement verticalisée, à une famille qui a tendance à principalement s'horizontaliser, hein, autour de ces processus de liberté. Comment ça s'est passé, cette histoire-là ? Ben, ça s'est passé, on pourrait le faire démarrer par exemple à la Révolution française, disons, voilà, qu'est-ce qui se passe à la Révolution française ? On coupe la tête au roi et on inscrit sur le fronton de la République liberté, égalité, fraternité. Bien. Balzac a dit quelques années plus tard, quand on a coupé la tête au roi, on a coupé la tête à tous les pères du royaume. Et il n'avait pas tout à fait tort, mais ça a pris un petit peu plus de temps que ce qu'il imaginait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On a porté un coup de boutoir à une hiérarchie sociétale dans laquelle le roi est le représentant de Dieu, d'une certaine façon, sur Terre, c'est-à-dire que son pouvoir, son autorité est transcendantale, elle lui est donnée de quelque chose de divin qui vient d'en haut, hein, et qui transcende la société, et que ce pouvoir transcendantal, il rejaillit dans la famille, sur le personnage du père de famille, avec un grand P, et c'est là toute la nature du patriarcat, c'est-à-dire que le père est le représentant du roi, qui est lui-même le représentant du Dieu, et que cette transcendance fait de lui une figure d'autorité à l'intérieur de la famille. Donc la question de l'autorité, elle est verticale et elle ne se discute pas, puisqu'elle ne dépend pas des personnes, mais qu'elle dépend de cette transcendance et qu'elle dépend de liens qui sont institués. Le code, malgré, je dirais, ce liberté, égalité, fraternité, eh bien, le code civil, le code Napoléon de 1804, quand il traite de la famille, eh bien, qu'est-ce qu'il dit sur la famille ? Il parle de la puissance paternelle. Les mots ont un sens, hein. Puissance paternelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le père est tout puissant à l'intérieur de sa famille, sur ses enfants, bien évidemment, mais aussi sur son épouse. Son épouse qui est un individu de statut mineur par rapport à son mari. Ça, c'est une chose. Et que il aura fallu attendre quoi ? Il aura fallu attendre 1970, c'est quand même pas si vieux, hein, 1970, pour passer de la puissance paternelle à l'autorité parentale conjointe. Là aussi, les mots ont un sens. Autorité parentale conjointe, ça veut dire que l'autorité n'est plus portée par une personne, mais elle est portée par une relation. Elle est portée par un couple, et par un couple de parents. Couple de parents qui se retrouvent à égalité par rapport à l'exercice de cette autorité. S'il y a pour moi quelque chose qui symbolise, dans la famille en tout cas, l'égalité entre les pères et les mères et les hommes et les femmes, c'est bien cet article de loi. Dans la société, c'est pas encore gagné, mais voilà. Donc, il y a, je dirais, quelque chose déjà qui déverticalise la famille autour du personnage du Père Tout-Puissant, hein, et autour de la création de parents qui sont tous les deux coparents, on va dire, par rapport à l'exercice de l'autorité, qu'ils soient hommes ou femmes, père ou mère. Et puis, dans le même mouvement, il y a un mouvement de plus en plus d'intérêt pour l'enfant. D'intérêt pour l'enfant comme étant une personne. Que l'enfant soit une personne, ça nous paraît évident, mais c'est, ça aussi c'est très récent qu'on considère que l'enfant est une personne, c'est-à-dire une personne douée d'un esprit séparé, d'un certain nombre de droits, et d'un, d'un intérêt supérieur, comme on dit dans les textes de loi. C'est-à-dire que de plus en plus, les choses s'organisent autour de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant, et que l'intérêt supérieur de l'enfant devient prépondérant par rapport à celui des adultes. Et que tout le code, toutes les nouvelles lois autour de la famille s'articulent autour de l'enfant. Ce qui est très bien, hein. Mais ce qui veut dire que la famille devient de plus en plus ce groupement d'individus. L'enfant individu, le père individu, la mère individu, et que tout ça, évidemment, crée davantage les conditions pour ces familles d'individus. Ça, c'est le premier point de l'horizontalisation, c'est-à-dire c'est le fait que l'autorité n'est plus un processus transcendant, mais devient de plus en plus un processus immanent, c'est-à-dire que de plus en plus l'autorité, elle s'autorégule dans les relations que les individus ont les uns avec les autres à l'intérieur de la famille. C'est toute la différence entre l'autorité hiérarchique et l'autorité négociée. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une bonne autorité et une mauvaise autorité, mais vous comprendrez bien à partir de ça que si l'autorité ne se fonde pas, comme la famille, toujours à l'intersection des deux processus, à la fois transmission-filiation et à la fois affiliation et liens horizontaux, eh bien elle devient soit trop écrasante d'un côté, soit indécidable d'un autre côté. Et c'est toute la question de l'autorité négociée avec les adolescents aujourd'hui. Bien évidemment, elle se négocie, l'autorité, mais jusqu'à un certain point et dans une certaine mesure. On le voit bien avec l'exemple de Tom, et je pense que vous avez en tête chacun 3 milliards d'exemples qui vont dans ce sens-là. En s'horizontalisant, la famille, elle devient donc de plus en plus ce groupe d'individus auto-organisés. Ça veut dire quoi, un groupe d'individus auto-organisés ? Ça veut dire que les rôles, les places, les fonctions à l'intérieur de la famille ne sont plus données, encore une fois, de l'extérieur, mais sont auto-organisés à partir de l'intérieur. Alors ça, c'est une pensée qui est très importante dans la pensée systémique, hein, et qui nous anime tous, c'est-à-dire c'est comment un groupe s'auto-organise. Voilà. Alors par exemple, je donne un exemple, vous êtes sur un bateau qui fait naufrage, vous vous retrouvez à 10 sur une île déserte, et alors là qu'est-ce qui se passe? À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait caché une grosse mitraillette dans son string et qui prenne tout le monde en otage en disant c'est moi qui ai le pouvoir, eh bien le groupe il s'auto-organise, c'est-à-dire qu'il négocie, le groupe négocie, alors c'est un petit peu abstrait mais c'est comme ça, le groupe négocie les places que chacun va occuper. Alors il y a les places concrètes, bien évidemment, il y a celui qui va construire le village, celui qui va faire le feu, celui qui va aller à la chasse, celui qui va cuisiner, et puis il y a les places psychiques, celui qui est toujours le fouteur de merde, celui qui calme l'atmosphère, celui qui est le bouc émissaire, il y a souvent des boucs émissaires dans les groupes, c'est-à-dire celui qui cristallise à la fois l'angoisse et la violence du groupe. Donc ça c'est ce qu'en termes systémiques on appelle les fonctions psychiques de chacun. Et auto-organisé, hein, plus ces fonctions-là deviennent vitales par rapport à la survie du groupe. C'est-à-dire que chacun se structure et s'enferme à partir de cette fonction-là. À partir de ce rôle qu'il joue parce qu'il ressent que c'est nécessaire à la survie du groupe. Et c'est vrai que tous les rôles sont nécessaires d'une certaine façon à la survie du groupe, que s'il y en a un qui fait monter la tension, et bien il faut qu'il y en ait un autre qui la fasse diminuer, etc., etc. S'il y en a un qui fait rire, il faut qu'il y en ait un qui soit plus autour des expressions émotionnelles, bref. Eh bien, dans les familles, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des places et des rôles qui nous sont donnés par la verticalité de la famille et qui ont à voir avec la succession des générations. On est père, mère, enfant, oncle, grand-mère, grand-père, etc. Et qui nous sont donnés aussi par la différence des sexes à l'intérieur de la famille. Et puis, il y a des rôles qui sont plus inconscients, plus souterrains, et qui font que chacun, dans la dynamique, occupe une place particulière. Qu'un enfant peut être le vrai mari de sa mère, tandis que le père est mis dans une position d'enfant, par exemple. Ou qu'une jeune fille anorexique va tenir la place d'une grand-mère extrêmement autoritaire auprès de sa maman. C'est-à-dire que les fonctions et les rôles, ça bouscule complètement l'ordre des générations, ça déhiérarchise complètement les hiérarchies familiales pour créer d'autres types de hiérarchies qui sont auto-organisées. Ça, c'est pas nouveau non plus. Ça existe depuis la nuit des temps. Les deux processus, ils existent depuis la nuit des temps. Mais il faut voir que plus la famille est horizontale, plus elle laisse la possibilité à ses rôles et à ses fonctions de prendre le pas sur les autres rôles et les autres fonctions qui sont donnés par la hiérarchie et la succession des générations. Autrement dit, le processus d'autorité, c'est quoi ? Eh bien, le processus d'autorité, tout simplement, et ça, Hannah Arendt en a toujours magnifiquement parlé, c'est le processus qui permet de reconnaître une hiérarchie comme étant protectrice. Voilà. Reconnaître une hiérarchie comme étant protectrice, ça veut dire reconnaître à un autre individu qu'il n'occupe pas la même place que vous, et que au moment où il exerce cette autorité protectrice, il occupe une place, on va dire, supérieure, entre guillemets, mais ce qui ne veut pas dire ni qu'il est plus fort, ni qu'il est supérieur, mais que cette place est hiérarchiquement supérieure à l'autre. Par exemple, un malade qui va aux urgences et qui se remet dans les mains d'un médecin, eh bien, il se met sous l'autorité de ce médecin, avec l'idée que cette autorité est protectrice, justement, et qu'elle va lui permettre de sauver. Ça ne veut pas dire que le médecin a tous les pouvoirs par rapport à lui. Ça veut dire qu'il se remet à cette autorité. Un ivrogne que la police, que police secours prend dans la rue parce qu'il titube et qu'il est en danger, et que ce même ivrogne qu'on amène aux urgences, on exerce une certaine coercition sur lui au nom de cette protection, au nom de cette autorité protectrice. La coercition, la contrainte devient légitime du fait qu'elle est exercée au nom de la protection, non seulement de la protection de l'individu, mais de la protection de l'ensemble de la société. Bon, bref. Donc, ces processus d'autorité, ils sous-entendent toujours une hiérarchie. Que cette hiérarchie existe, il faut que les processus, encore une fois, de séparation puissent être clairs. Voilà. Qu'est-ce qui rend les processus de séparation de plus en plus confus à l'intérieur de la famille ? Eh bien, c'est que, justement, en devenant de plus en plus une famille d'individus, il y a quelque chose au niveau du lien, comme je vous le disais tout à l'heure, qui devient de plus en plus une émanation des individus, c'est-à-dire quelque chose qui, encore une fois, est moins donné mais davantage créé, et que donc ce qui est créé, c'est du lien affectif, c'est de l'amour, et que l'amour ça change, ça évolue, ça dure pas toujours. Ça se transforme en haine, ça se transforme en ressentiment, ça se transforme en besoin, ça se transforme en intrication pulsionnelle, ça se transforme en projection. J'ai besoin de toi, tu es nécessaire à ma vie, tu es nécessaire à mon bonheur. Si tu n'es pas là, je tombe malade, je meurs, je me raccroche à toi. Et que tous ces processus-là trahissent finalement la même inquiétude, c'est que le lien et la relation, ça soit la même chose. Or, le lien et la relation, c'est pas du tout la même chose. Les relations, justement, c'est ce qui fait que on est pendant un moment relié à quelqu'un, dans un rapport avec lui, et que au moment où on se sépare, eh bien, la relation s'arrête entre ces deux personnes. Le fait que la relation s'arrête ne veut pas dire que le lien est coupé, vous l'aurez bien compris. C'est d'autre chose dont il s'agit. C'est-à-dire que les liens, d'une certaine façon, ils sont toujours déjà là. Voilà. Et que les liens, nous ne les créons pas, nous les transformons. Nous naissons dans ce réseau de liens qui fait qu'on nous assigne dans notre famille à une certaine place, qui a à voir parfois avec des ancêtres, des grands-parents, des oncles, enfin, on nous... Et puis qui a à voir avec l'ensemble des liens sociaux dans lesquels on vit, encore une fois, et qui crée un espèce de tissage autour de nous, et que ces liens, eh bien, depuis qu'on est au monde... Eh bien, ils nous sont donnés, et puis nous les transformons, nous les transférons, comme on dirait en psychanalyse, on les transfère sur un conjoint, sur des enfants, sur des amis, sur des relations sociales, et que petit à petit, ils se transforment, mais c'est toujours le même réseau qui est en jeu.
Radio-cultura.com